Merci. Donc, on va passer aux commentaires. Alors, Vincent Bastien m'a dit en un mail samedi, tu leur as donné une demi-heure, donc ils vont parler 45 minutes. Et du coup, je prépare une intervention minimale en premier commentaire pour laisser de la place dans le débat. Donc, tu fais l'intervention minimale tout de suite?
Minimaliste, j'ai laissé la place parce que j'ai l'occasion d'exprimer. Donc, bravo, je crois que c'est très important cette étude et merci d'être venu. D'abord parce qu'actuellement en France, on est coupé en deux sur une raison à peu près simple. S'il y a des gens qui ont peur de l'avenir, qui ont peur, qui se replient sur le passé, et ceux qui croient dans l'avenir. Bon, ceux qui ont peur, malheureusement, ne peuvent pas nous aider, il faut les aider. Donc restent ceux qui croient dans l'avenir. Ceux qui croient dans l'avenir, ça demande un renversement conceptuel qui consiste à dire, sortons du village gaulois, qu'est-ce que les autres pensent de nous? Arrêtons de dire on est français, cocorico, le coq, écoutons ce qu'ils pensent de nous. Démarche de toutes les boîtes. Et ça passe par cette marque France. Donc ça, c'est la première chose, je la considère absolument fondamentale. Deuxième chose sur laquelle je ne suis pas d'accord avec vous, et vous le savez, c'est qu'au contraire, ce que démontre votre étude, c'est que la marque France, finalement, ça n'aide pas beaucoup les exportations. Donc on a un gisement fabuleux. Je n'admets pas que l'on me dise, ah ben non, non, la France, ce n'est pas notre truc, on va faire que du tourisme. Faisons-le, mais ce que montre l'Allemagne, il y a un gisement fabuleux. Et le troisième point que je veux dire là-dessus, on l'a démontré pour Vuitton. Bon, chacun sait que j'ai longuement dirigé Vuitton et on a construit méthodiquement cette démarche dans les années 80. En jouant la valeur de la marque, on a inventé des modes de gestion complètement différents, que j'enseigne d'ailleurs actuellement, et qui peuvent s'appliquer ailleurs. Donc on sait faire en France, on est crédible. Il y a une énorme opportunité. Et le dernier point très important, c'est que, oublions Vuitton. Okay, on a réussi un truc, on l'a fait. Mais pour les petites boîtes françaises, il faut jouer collectif. Vous avez pris le champagne tout à l'heure. Le champagne, c'est déjà une marque collective. Vous avez le champagne, ils jouent ensemble au CIVC, puis après, chaque marque a ses choses. Et donc, si on veut aller au-delà, la marque France doit être, ce sont des poupées gigognes. Donc, je crois que c'est fondamental. Donc, je crois beaucoup à l'importance de cette étude. Je suis très content que nos amis du Corps des Mines et tout le gouvernement français s'y mettent, et c'est absolument majeur. C'est tout ce que je voulais dire. Je passe la parole à monsieur l'ambassadeur.
Oui, très bon commentaire, bien ramassé sur les réalités des choses. Donc je ne reviendrai pas sur les aspects positifs qui sont nombreux. Je commencerai par faire état d'un commentaire biblique d'exégèse. Tu ne vois pas le monde tel qu'il est, mais tel que tu es. Et je rejoins ce qu'a dit mon collègue. Il est extrêmement important de voir les choses sous de multiples aspects et non pas simplement sous l'angle de sa formation, sous l'angle de sa chapelle spirituelle et autres. Et ça nous permet de voir, et là je crois que vous avez fait un très bon travail, un très gros effort d'analyse, la réalité française sous ses multiples aspects. Alors c'est un exposé très très riche, je ne vais pas revenir sur 50 trucs, mais je vais aussi donner quelques éclairages. D'abord, bien entendu, un pays comme la France a une âme, c'est un principe spirituel, il est inscrit dans l'histoire, ça va bien au-delà d'une marque quelconque ou des aspects strictement économiques et encore moins commerciaux. Moi-même, j'ai travaillé sur tous ces secteurs. J'ai été directeur de cabinet de Michel Crépeau il y a bien longtemps, quand il était ministre du commerce, l'artisanat et du tourisme. J'ai passé ma vie à l'exportation. J'ai créé le poste d'ambassadeur aux investissements internationaux que j'ai tenu pendant 7 ans. Je me suis occupé aussi des hautes technologies. Donc, j'ai vu ces différents aspects sous différents cadrages. Et je partage une partie de l'optimisme qui vient d'être dit. Nous avons devant nous énormément de choses possibles. Encore faut-il savoir quels sont les points d'impact, et là-dessus je ferai 2 petites critiques sur votre approche. Votre approche, vous mettez en avant l'exportation, ce qui est très bien, c'est un gros morceau, et il faut continuer, on est loin d'être perdu. Malgré la chute brutale de nos positions dans le monde ces dernières années, vous avez parlé de l'investissement. Là, évidemment, je pourrais vous raconter à la fois des cas concrets et la manière pourquoi on a créé ce poste d'ambassadeur aux investissements internationaux. Et moi, quand je l'ai exercé, je me limitais à 2 choses. D'une part, d'essayer de convaincre les CEO des Fortune 500, parce que vous pouvez faire le tour du directeur marketing, du directeur stratégie, du directeur financier, du directeur commercial, si le grand patron n'est pas pour l'investissement en France. Si vous ne l'avez pas convaincu au préalable, c'est vraiment perdre son temps. Donc il faut taper d'abord au plus haut niveau et voir avec eux quelle est leur approche et essayer de les convaincre que c'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est de concentrer l'autre partie de son temps sur les médias, sur les grands organismes de presse internationaux, mais non pas par des aspects marketing financier, c'est-à-dire la publication pour un pays, c'est vraiment pisser dans un violon, ça ne sert absolument à rien. Quand on dépense 10 millions d'euros, alors qu'au contraire, pour le tourisme, ça peut être positif. En matière de propagande, c'est dès qu'il y a marqué publié information, vous êtes mort. Donc il faut faire des conférences de presse, il faut créer des événements, il faut développer des choses positives, mais pas payer, comme c'est le cas pour Vuitton, pour d'autres, de publicité. Ça me semble être un point, et là où on dépense de l'argent, à mon avis, inutilement. Donc vous avez parlé des investissements internationaux, ce qui est bien. Vous avez parlé du tourisme, c'est aussi très très bien. Mais le tourisme en France, comme on l'a dit, on reçoit 78 millions de touristes, mais on n'est que la troisième puissance en ressources financières. Et pourquoi ? Et là-dessus, on va avoir beaucoup de problèmes dans l'avenir. Le tourisme, c'est une industrie à la fois très capitalistique, il faut beaucoup d'argent pour faire des chaînes d'hôtels, mais en même temps, c'est une industrie de main-d'œuvre. Et sur ces deux questions, nous avons des problèmes. Et là, ça m'amène aux deux aspects que vous avez un peu négligés. Vous avez parlé, d'ailleurs, vous l'avez évoqué dans l'exposé, mais sans aller au fond des choses, vous avez parlé des investissements, mais pas des investisseurs. Or, ça, c'est une catastrophe pour notre pays. Nous avons perdu non seulement les étrangers, mais les Français, par notre système fiscal. Et notamment l'impôt sur la fortune a un coût dans l'économie. Bastia et d'autres grands économistes vous expliquent, ce qui est important, c'est ce qu'on ne voit pas. Il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas est souvent beaucoup plus important de ce qu'on voit. Or là, nous avons organisé nous-mêmes le départ des grands investisseurs de notre pays et le départ même des Français. Et les nombres n'importent peu. Si on nous dit que les grands entrepreneurs, c'est une denrée rare, pour démarrer de nouvelles entreprises, il faut des capitaux libres. Et quand on voit que des milliers, probablement des dizaines de milliers, peut-être une centaine de milliers d'investisseurs français sont partis à l'étranger pour y établir leur domicile fiscal et donc par ce biais pour développer leurs activités, ça c'est une donnée catastrophique sur laquelle beaucoup de gens sérieux, ce qui est en compte, c'est évidemment pas la situation fiscale des plus riches, ça tout le monde s'en fout, c'est leur problème et on peut rattraper d'un autre côté. Ce qui compte, c'est la décision qui est prise par des entrepreneurs de mettre leur domicile fiscal en dehors de France. Et là, c'est un grand point qui manque à votre étude. Nous avons une perte là-dessus. Et rappelez-vous, Offenbach, je suis brésilien, j'ai de l'or, j'habite Rio de Janeiro et je viens m'établir à Paris. Hein, c'est la vie parisienne. Et comme lui, des Brésiliens, des Arabes, des Américains, des Anglais, des gens de tous les pays. Ils viennent, mais ils restent moins de 6 mois, comme les Français. Donc ça, c'est une catastrophe nationale, je pèse mes mots, c'est la décision qui a forcé les Français les plus riches à partir de France et qui empêche les étrangers les plus riches à venir s'établir chez nous. Si un Japonais tombe amoureux d'une petite Française et s'il décide de s'établir ici et s'il lui paye un château et s'il meurt, il aura la plus grande catastrophe fiscale de sa vie. Donc, au moment où les autres pays, comme les États-Unis, ont éliminé ou pratiquement les droits sur les successions, à tel point que vous avez vu qu'il y a des manifestations de riches américains pour dire qu'il faut que les riches payent plus d'impôts. Alors ça, c'est un point très important. Le président de la République l'a vu, tous les dirigeants socialistes le savent. Le problème, c'est de passer à l'acte. Et comme il n'y a que 500 000 Français sur 65 millions qui payent l'impôt sur la fortune, évidemment, au point de vue électoral, ce n'est pas payant. Donc ça, c'est débile. Il faut qu'on puisse l'expliquer à nos compatriotes. C'est la fin du pays. Tous les autres pays, les socialistes espagnols, les Allemands qui l'ont fait par la voie de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, les Danois, les Autrichiens ont éliminé l'impôt sur la fortune. Évidemment, ni les Chinois, ni les Américains n'ont jamais eu l'idée de l'entreprendre. Et s'ils avaient eu l'idée de l'entreprendre comme les Indiens, ça aurait été la fin du pays. Là, nous avons un problème extrêmement sérieux dans notre pays. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la recherche et les industries du futur. Alors là, je dois dire que depuis quelques années, il y a eu des choses extrêmement positives qui ont été faites. Le crédit d'impôt recherche, les pôles de compétitivité, la réforme des universités, etc. Mais nous avons plusieurs problèmes. Le problème numéro un, c'est que les jeunes les plus doués, les jeunes normaliens les plus pointus, une proportion considérable de jeunes X, les gens des meilleures écoles de commerce, quittent la France. Nous les avons sélectionnés, nous avons formés, vous avez un tiers des jeunes qui s'en vont et ne voient pas leur futur chez nous. Donc je parle des gens les plus doués. Il y a une étude qui vient de sortir de l'Institut Montaigne qui est absolument catastrophique, qui montre qu'un petit nombre, on parle de quelques dizaines d'individus, les plus doués de leur génération, ne restent pas. Heureusement, il reste les maths. Il reste en France pour les maths, mais sur les biotechnologies, etc., ils vont ailleurs. Donc là, c'est un point. Et l'autre aspect, c'est de continuer à attirer des chercheurs. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? C'est comme si nous avions, par une série de mesures mal conçues, pousser les plus doués, soit pour faire de l'argent, soit pour faire de la science, soit pour être à la pointe, de quitter le pays alors que nous accueillons des millions de gens qui sont analphabètes et qu'il faut remonter au niveau et qui nous coûtent des coûts sociaux, médicaux et autres considérables. Là, ça ramène aussi les questions d'identité nationale. C'est des problèmes brûlants politiquement, mais qu'on ne peut pas éviter, parce que ça pose des problèmes réels. Et là, il y a un petit complément à apporter pour ces choses. Alors, moi, je suis président du Club des ambassadeurs, qui regroupe des ambassadeurs étrangers à Paris. Et de temps en temps, on a des surprises. Là, j'ai invité l'ambassadeur d'Ouzbékistan, qui est un spécialiste de l'islam, qui ne parle pas français. Donc, conversation en anglais. Et je ne sais pas pourquoi, Balzac est rentré dans la conversation. Je lui ai demandé, vous avez entendu parler de Balzac? Il me répond, j'ai lu tout Balzac en russe, mais nous commençons à le traduire en ouzbek. Et quand vous allez, j'ai eu la chance, l'ambassadeur de France en Chine a organisé une réunion, je dirais, d'intellectuels au moment d'un de mes passages, puisque j'étais le coordonnateur sur la Chine des dossiers ferroviaires pendant 4 ans, une réunion d'intellectuels, et vous voyez tous ces gens-là qui m'ont expliqué pourquoi un écrivain comme Balzac est aussi connu en Chine. C'est parce qu'au moment de la révolution culturelle, les plus grands romanciers ne pouvaient pas écrire, donc ils se servaient des textes étrangers pour passer leurs propres sentiments. Et donc, ça n'a pas été traduit par des traducteurs, mais par des romanciers de très grand talent. Et je vous conseille d'aller voir, si vous ne l'avez pas vu, le film Balzac et la petite tailleuse chinoise, ou de lire le roman absolument sensationnel, qui montre l'impact. Et je dis ça de Balzac, on pourrait dire la même chose de Zola, etc. On a une capacité culturelle qui va bien au-delà du commerce. Et toutes les grandes écoles jusqu'aux années 1950 de peinture, les cubismes, impressionnisme, pointisme, etc., ont émané de la France. Et il reste encore. Nous perdons les marchés pour des raisons fiscales encore débiles. Nous perdons les marchés de seconde zone et maintenant nous sommes troisième, quatrième. On va être dépassé par plusieurs sur le marché secondaire parce qu'on a des tas de lois qui ne collent pas. Et donc, dans tout cet ensemble, il faut reprendre les dossiers 1 à 1, ceux que vous avez mentionnés, voir, comme on l'a dit, quelles sont nos faiblesses, qu'est-ce qui est fait de mieux ailleurs. Lisez Montesquieu, lisez les considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, et vous trouverez des choses qui sont d'une modernité absolue. Montesquieu nous explique pourquoi les Gaulois ont été battus par les Romains. Ce n'est pas que les Gaulois étaient de moins braves guerriers, au contraire, les Gaulois, c'est un fait historique, dans les batailles, mettaient les plus impressionnants de leurs guerriers entièrement nus, armés de leur massue et qui poussaient des cris effroyables, et donc c'était des guerriers absolument remarquables, mais Jules César, les autres les ont battus. Pourquoi? Parce que nous dit Montesquieu, les Romains, toutes les fois qu'ils voyaient chez leurs adversaires une méthode, une arme, quelque chose qui était meilleur qu'eux, l'adoptaient immédiatement. Romulus, dans la première bataille avec les Sabins, voit que les Sabins sont moins blessés que les Romains. Pourquoi? Parce que les Sabins ont le bouclier long qui est devenu le bouclier romain, alors que les Romains avaient le petit bouclier rond. Et donc, immédiatement, il prend la décision, tout le monde adopte le bouclier long des Sabins qui permettra de faire la tortue, qui permettra de faire les attaques. Même chose quand ils se battent avec les Crétois, qui avaient un arc supérieur, on change. Alors que, nous dit Montesquieu, les Gaulois ne se sont jamais posé la question pourquoi ils ont été battus. Et ils n'ont jamais regardé. Nous sommes tellement persuadés de la valeur de notre héritage intellectuel, de recherche, scientifique et autres, que la préoccupation des Français, c'est de mettre en valeur la recherche française. Or, la recherche française, c'est 4 à 5% de la recherche mondiale. Il y a 95% ailleurs qui demandent à être mis en valeur par des business models, et nous, nous nous concentrons sur nos 4 à 5%. C'est débile. Faisons comme les Chinois, faisons comme les Coréens. Alors, nous, on les accuse de copier, mais c'est simplement d'aller voir ce que les autres font de mieux que nous. Et donc, cette ouverture d'esprit, en finir avec l'exception culturelle française, en finir avec nous sommes meilleurs que les autres, tout ceci, c'est complètement dépassé. Et on le voit, on arrive quand même à nous tirer avec 60 millions d'habitants pas mal dans la bataille. Et comme cela a été dit, on peut faire encore beaucoup mieux. Mais regardons ce qui se fait de mieux ailleurs. Voyons les problèmes concrets qui se posent à nous. Regardons les marchés du futur. Vous l'avez dit, une partie des marchés du futur, ça va être pour l'industrie du luxe, cette classe moyenne supérieure, plutôt cette classe supérieure qui peut s'offrir les Hermès et autres. Mais la grande masse, c'est les 200 ou 300 millions d'Indiens, les 200 ou 300 millions de Chinois, les 50 millions de Brésiliens ou Turcs qui vont pouvoir être une classe moyenne supérieure. Et là-dessus, ce sont de nouvelles marques. Ce sont de nouvelles méthodes de vente, ce sont de nouveaux réseaux commerciaux, ce sont de nouveaux produits, de nouvelles approches. Où les entreprises françaises réalisent que c'est ça le potentiel de développement dans le futur et s'y adaptent et font les produits nécessaires à la satisfaction des besoins de ces classes nouvelles, où nous passons à côté. Parce que c'est clair que dans le monde entier, il y a 4 ou 5 grands marchés qui sont devant nous. Le marché des infrastructures et des grands investissements, le marché des classes moyennes qui se développent, tous les aspects haute technologie, et puis tout ceci demande à être focalisé, segmenté, comme vous l'avez fait, avec des plans de bataille qui soient appropriés. On ne peut pas, je ne pense pas, et d'ailleurs vous ne l'avez pas proposé, faire un grand ensemble de tout ça. Vous avez des horizontaux qui sont les ambassadeurs qui essayent de voir un certain nombre de choses. Il faut en finir de toutes les réformes administratives, etc. Nous avons des problèmes devant nous considérables. D'alléger, regardez ce qui se passe, vous parlez du tourisme. Quand on a 5 ou 6 000 syndicats d'initiative dans la moindre commune, tout ceci n'est pas sérieux. Ça demande à être regroupé dans les régions, de faire du travail en commun et de faire les investissements adéquats. J'étais récemment en Turquie. Ils ont construit dans les 20 ou 30 dernières années 500 hôtels 5 étoiles. Alors peut-être les 5 étoiles correspondent à nos 4 étoiles, mais nous, nous sommes loin du compte. Je devais inviter des émirs, puisque je me suis occupé de ces questions, à Grenoble, où on a la pointe en matière de nanotechnologie. Il n'y a pas un seul hôtel à Grenoble qui permette d'accueillir un émir sans être ridiculisé. Hein, le meilleur, c'est un nouveau hôtel, un 3 étoiles. On ne peut pas accueillir une délégation venant des Émirats, où ils diront « c'est Petzouï et compagnie hein, ». On est obligé d'inventer des trucs pour les faire venir le matin, repartir... Bon, alors, dans une ville qui est à la pointe de la recherche, ne pas avoir un hôtel, je dirais même moyen, pour accueillir, je ne parle pas du tout de l'Émirat Palace, qui a coûté 3 milliards de dollars, ou des hôtels domaines de catégorie comme ça, mais je dis simplement un hôtel normal pour accueillir un émir, ce n'est pas possible. Et de la même manière, nous ne nous occupons pas des croisières, il y a des grèves, de la CGT, tous les trucs, des taxis... Bon, un marché gigantesque où nous aurions tous les atouts, puisque nous sommes bons dans l'entertainment, on est bons dans la food, on construit les plus beaux bateaux du monde et on est nul en matière de croisière. On ne les accueille pas. Alors, bon, et c'est vrai aux Antilles aussi. Hein, vous les avez partout dans les Caraïbes, etc. Donc on a un très gros travail à faire. Ce travail, il est dans chacun des secteurs, il est dans chacune des dimensions que vous avez données et il faut s'y atteler.
Merci. Donc il y a du travail. J'ai juste une remarque, quand on parle des effets désastreux de l'impôt sur la fortune, on se demande quand même pourquoi il reste des investissements en France ou qui sont les investisseurs. J'imagine que ce sont des grandes entreprises plutôt que des particuliers. Ce que disait M. Tangeman, c'est que l'impôt sur la fortune a fait fuir un très grand nombre de gens qui ont de l'argent, et puis ceux qui pourraient, des étrangers qui pourraient investir en France, finalement, toutes réflexions faites, s'en vont à cause des lois fiscales. Or, vous avez montré que les investissements directs de l'étranger en France restent encore importants. Donc la question, je me disais, qui sont les investisseurs? Mon hypothèse, c'est les grandes entreprises qui sont, sur cette question-là, un peu moins sensibles à la dimension fiscale que les particuliers.
Le tableau n'est pas complètement noir, j'allais dire qu'il y a quand même des arguments qu'on a encore à faire valoir, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de grands groupes qui investissent encore énormément, notamment dans leur centre de R&D. Alors peut-être que la quelques poignées de génies qui s'expatrient aux États-Unis, effectivement, on les perd, mais par contre l'immense majorité des ingénieurs français, j'allais dire moyens, sont très bien formés, et c'est eux globalement qui vont faire, qui vont écrire les lignes de code pour Microsoft à des coûts en fait qui sont encore compétitifs.
Oui, mais c'est ça la paupérisation. Moi j'étais à Stanford, comme tu le sais, j'ai fait une partie de mes études à Stanford. C'est rempli de gens brillants, d'X et autres qui font cet avenir-là. Ça fait partie de la paupérisation. Quant aux investissements, c'est très clairement les grands groupes étrangers qui investissent, ce n'est pas des particuliers. Ça, Michel, c'est extrêmement clair.
Ouais. Oui, quand l'autre point, c'est sur ce que disait Montesquieu, c'est le fait que les Français soient dans un complexe de supériorité. Moi, ce que je vois, le rapport des Français avec l'étranger, c'est qu'il y a deux périls. Ils sombrent dans deux travers. Soit c'est le complexe de supériorité, on est vachement bon, les autres sont nuls, soit c'est le complexe d'infériorité. On est totalement nul. Et alors à ce moment-là, moi je vois dans le domaine de la recherche, c'est assez frappant. On est tellement nul qu'il faut absolument copier ce que font les étrangers, sinon de garder quelque chose d'un peu français, c'est une voie sans issue. La bonne distance, Michel, est très difficile à trouver.
Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est un manque d'objectivité. C'est qu'en fait, il faut regarder le monde qu'il est, comment est-ce qu'il nous écoute. C'est tout à fait typique.
J'ajoute deux mots là-dessus. La France est un pays extrêmement compétitif dans les gens qui sont en France. Sinon, nous sommes notamment particulièrement doués sur un point, la maîtrise des systèmes intégrés complexes. On a une formation qui nous prédispose à ça. Quand il y a des problèmes complexes, on a des esprits qui sont capables d'en faire la synthèse et traduire ça en action. C'est pour cela que vous voyez tricher qui se trouve à la tête de la BCE, l'ami à l'Organisation mondiale du commerce et bien d'autres, Lemierre qui a été à la Baird, etc., en termes d'individualité et en termes de capacité. Donc nous avons des esprits assez bien organisés et organisés aussi sur l'action. Alors nous avons plusieurs défauts qui viennent de là. On est compétitif, mais on n'a pas l'esprit d'équipe. On est compétitif en individuel. Moi qui ai fait toute une série de cursus, mais aussi l'Harvard Business School, la grande différence, la première chose que j'ai vue à Harvard, à l'Harvard Business School, c'est l'esprit d'équipe est indispensable. D'abord, on vous surcharge de travail, vous ne pouvez pas faire le travail qui vous est donné si vous travaillez seul. Même si vous travaillez toute la nuit, ce n'est pas possible, vous avez des cas complexes qui tombent tous les soirs de 150 pages, vous n'arrivez pas à survivre. Donc vous êtes organisé en cellules de 8, il faut vous organiser. Et deuxièmement, pour moi qui l'ai fait, j'ai fait l'Advanced Management Programme après avoir été ambassadeur, donc à un âge déjà avancé, on nous emmène dans la forêt à 10 mètres au-dessus des arbres avec des filins d'acier, il faut aller d'un arbre à l'autre. Si vous n'êtes pas sûr de votre partenaire qui vous garde avec des filins, vous ne pouvez pas passer l'épreuve. Donc tout est fait pour ça. Et aux États-Unis, ils ont eu, pendant la guerre de sécession, un génie à la tête de leur pays, ils en ont eu plusieurs, ils ont eu Washington, ils ont eu Jefferson, mais ils ont eu aussi Abraham Lincoln. Et Abraham Lincoln a pris en pleine guerre une décision absolument révolutionnaire pour son pays, celle de donner 7 millions d'hectares aux universités. À partir du moment où les universités ont hérité de 7 millions d'hectares, les campus américains ont eu des espaces gigantesques qui leur a permis à la fois de faire des stades, donc d'avoir un esprit d'équipe très développé. Nous l'avons relativement peu, il n'y a pas beaucoup de grandes équipes universitaires. Et deuxièmement, de pouvoir accueillir tout le business et d'être dépendant du business. Donc vous avez des décisions qui sont prises de temps en temps, et là-dessus, nous sommes en train de réformer. Et vous l'avez vu, il y a un travail de fond qui est fait par le gouvernement pour essayer de recréer des universités qui tiennent la route, parce que, comme vous l'avez vu, dans les comparaisons internationales, on n'est pas très bon. Donc là, il y a l'esprit critique. En français, vous n'êtes pas intelligent si vous n'avez pas l'esprit critique. En Amérique, j'ai passé 10 ans de ma vie aux États-Unis, c'est l'esprit positif, il faut faire des choses, et non pas critiquer celle des autres. Donc là, on a modifié aussi un peu notre état d'esprit et aussi l'esprit business, avoir plus de retours. Tout ceci fait qu'on a beaucoup d'atouts. Moi, je vois les choses aussi de la même manière, c'est-à-dire le potentiel devant nous est très très fort si on sait se réformer, mettre en valeur nos atouts et les orienter en termes business.